Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de cette semaine. Pour m'accompagner ce soir, Grégory Sirk, Jean-Louis Guépy et Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du cyclisme avec Paris-Roubaix, du golf avec le Masters d'Augusta et de la Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. Après une page de publicité, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine. Nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Ricardo Baroni, on va commencer par vous et le cyclisme. Mathieu Van Der Poel est presque invincible sur Paris-Roubaix. Troisième victoire consécutive devant l'ogre Pogacar. Donc là, pas grand-chose à dire.
Non, pas grand-chose, surtout qu'il est sur son terrain de prédilection, on va dire. C'est vraiment un parcours qui lui convient. Ce sont les classiques qui lui conviennent, comme le Tour des Flandres où il fait deuxième ou troisième, je ne sais plus trop. Paris-Roubaix, c'est vraiment sa course. En plus, il a une équipe tout à sa disposition pour et gérer au mieux cette course, et on voit qu'il a vraiment de l'expérience sur ce Paris-Roubaix, et ça a été vraiment une très belle course à voir cette nuit. Mais pour moi, la chose la plus importante était l'arrivée de Pogacar.
C'était le premier Paris-Roubaix.
C'est vrai, c'était le premier Paris-Roubaix. En plus, il vient en tant que champion du monde. Il faut savoir que son objectif principal à Pogacar, c'est le Tour de France. Donc, qu'il vienne se mesurer à Van Der Poel sur Paris-Roubaix, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et on tenait à voir ce qui allait se passer. C'était vraiment la chose la plus importante et, on va dire, le clou du spectacle.
Et on n'a quand même pas été déçus, parce que le combat a bien eu lieu, finalement. Malgré la petite erreur de Pogacar à 38 km de l'arrivée, le combat a été âpre. Et on a vu les coureurs quand même très touchés et très entamés à la fin de ce Paris-Roubaix.
Oui, et heureusement qu'il était là, parce que sinon, c'était une pure balade pour Van Der Poel. Heureusement qu'il était là pour un peu défier Van Der Poel. Ce qui est dommage, c'est vrai, d'avoir raté ce virage. Donc, comme excuse, il a dit que d'abord, il est arrivé trop vite. Les motos, il n'a pas vu la trajectoire. Et donc, il est sorti un peu. Il a eu des difficultés à repartir. Après, l'espace, le trou avait été fait avec le leader de la course, Van Der Poel. En plus, il a eu de nouveau un problème mécanique, il a dû s'arrêter. Maintenant, il ne faut pas chercher des excuses, parce que Van Der Poel, il a crevé aussi. Il a eu sa voiture qui l'a très bien dépanné. Donc, je pense que c'est le meilleur qui a gagné, mais qu'on ait une personne comme Pogacar qui vise le Tour de France, qui vient défier Van Der Poel sur son terrain, c'était vraiment quelque chose de très beau à voir.
Alors Van Der Poel, c'était son sixième monument, comme Pogacar. Du coup, il égale Pogacar sur ce terrain-là. C'est vraiment Monsieur Paris-Roubaix désormais, trois victoires consécutives.
Trois victoires consécutives, c'est comme Moser, Francesco Moser. Lui aussi, il en avait fait trois consécutifs. Donc, est-ce qu'il va arriver à faire la quatrième l'année prochaine ? Ça va être le suspense. Pogacar a déjà dit « J'ai terminé la course très fatigué, mais je reviens l'année prochaine parce que ça m'a énormément plu, le public, l'ambiance. » Et puis, il faut savoir que lui, il pèse quand même 20 kilos de moins que Van Der Poel. Donc, c'est nettement plus compliqué pour lui sur les pavés qu'un gars comme Van Der Poel.
Il subit beaucoup plus le rebond des pavés.
Tout à fait, ouais. Il rebondit sur les pavés, tandis qu'on voit très bien Van Der Poel, il glisse sur les pavés. En plus, il ne faut pas oublier que c'est le champion du monde de cyclocross et non VTT. Et donc, c'est vrai qu'il a une certaine facilité à diriger son vélo sur les pavés, qu'on voit la différence avec un coureur comme Pogacar.
Mais il va apprendre, parce qu'a priori, il apprend vite.
Oui, il apprend très vite. Et puis lui, les défis, c'est vraiment ce qui le pousse à continuer à faire du vélo. Moi, ce qui m'inquiétait pour Pogacar, c'est qu'il se blesse et qu'il se retrouve à repousser son objectif principal de l'année, qui est le Tour de France. Non, il a juste fait une sortie de route. Rien de grave. Donc, on va encore le voir dans les prochaines courses.
Quel est le prochain monument qui nous attend au calendrier ?
Ben, le prochain monument, on va dire que ce n'est pas un monument, c'est l'Amstel Gold Race, qui est une grande course. Mais déjà, Van Der Poel a dit qu'il n'y allait pas, et tandis que Pogacar, lui, il a l'intention d'y aller, puisque Van Der Poel vise plutôt un championnat du monde cette année qui est non sur la route. qui est dans une autre discipline et donc il espère plutôt miser là-dessus. Il a accepté d'être au départ du Tour de France, mais il a déjà averti qu'en cours de route, il allait abandonner pour préparer cet objectif.
Ok, bon, vous avez parlé de VTT à un moment, la transition est toute faite. On va parler de Pauline Ferrand-Prévot. Qui s'est imposée. Alors, pourquoi VTT ? Parce qu'elle a gagné la médaille d'or de VTT aux Jeux Olympiques en août dernier et qu'elle a décidé de passer sur la route avec comme objectif principal le Tour de France et donc son programme passé par Paris-Roubaix qu'elle vient de gagner.
Oui, mais ce n'est pas une surprise puisqu'il y a 10 ans, Pauline Ferrand-Prévot faisait déjà du vélo sur route. Elle avait déjà gagné des courses. Et donc, elle est revenue à la route après avoir été championne olympique. Ça n'a pas été une surprise, hein, puisque au Tour des Flandres, elle fait 2e au sprint derrière la championne du monde. Donc, on voyait qu'elle avait une condition physique au-dessus de la moyenne. Et là, quand elle est partie, elle est arrivée toute seule. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant, c'est la 5e édition féminine. Et ça sera toujours la première française, quoi qu'il arrive.
À jamais la première, pour faire un clin d'œil à nos amis marseillais.
C'est vrai, oui. Pourquoi on fait la transition tout de suite sur le football ?
Non, on ne va pas faire de transition sur le football tout de suite. Un dernier mot pour dire que donc, l'objectif pour elle, c'est le Tour de France. Ça vous paraît réalisable dès cette année ? Elle s'est donné 3 ans pour le atteindre cet objectif.
Moi, je pense que cette année, ça va être compliqué pour elle. Puisque le Tour de France, ce n'est pas une course d'un jour. Ça dure sur deux semaines pour les féminines. Je pense que ça va être compliqué, mais elle nous a montré qu'elle était capable de s'adapter assez rapidement. Donc, pourquoi pas qu'on la voie arriver dans les premières au classement général. Je pense que gagner une étape, c'est tout à fait possible. De là à gagner le classement général, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour elle.
Bon, eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt dans les semaines à venir, tout comme le duel Pogacar-Van der Poel, puisqu'il est parti pour être le duel de l'année en cyclisme. On va changer d'univers complètement, Jean-Louis Guépy, on va passer avec vous au golf. Ça y est, Rory McIlroy a enfin gagné le Masters, après presque 15 ans d'attente et au moins 11 ans après son dernier majeur.
Ouais, une édition grandiose du Masters. Pour faire un peu de pédagogie, le Masters, c'est un parcours d'Augusta qui a toujours mis en valeur les grands champions, mais qui en a fait couler aussi beaucoup, c'est-à-dire que c'est excessivement difficile. À la télévision, on ne se rend pas compte des formes des greens, mais en fait, c'est à 1 mètre, 2 mètres près, vous pouvez faire un super score ou faire une catastrophe, et ça dure 4 jours comme ça, à leur niveau. Alors, c'est des gens qui ont un niveau de maîtrise qui est fabuleux, mais voilà. Le commun des mortels, quand on observe ça, on devine pas la difficulté. Donc c'est bravo Rory, c'est grandiose ce qu'il a fait parce qu'on l'attendait. Il a réussi à passer au poteau de justesse. Je redis de justesse parce qu'il aurait pu perdre ce tournoi avec toutes les émotions qu'il y a eu pendant la durée du dernier tour. Donc, avec deux coups extraordinaires, un au 7, où il est coincé dans les arbres. Il va avoir un moment, une petite lucarne, il tente, il prend le risque, il passe, il fait birdie. S'il passe pas, le tournoi est terminé. Entre-temps, il remonte, si on décrit un petit peu la partie, comment elle s'est déroulée. Il va se laisser envahir à partir du 12 par les émotions. Il repère l'avance qu'il avait. Et là, au trou numéro 15, il va sortir encore un deuxième coup d'anthologie avec un effet, une balle qui va partir 30 mètres à droite de la cible, à 180 mètres du trou, et il va la mettre à 2 mètres du poteau, au-dessus de l'eau. Enfin, un truc que même les plus grands stratèges ne tentent pas à ce moment-là. Et c'est passé. Donc, voilà, on est tous estomaqués par la qualité de cette personne à produire un jeu... excellent, mais aussi on voit qu'il est humain.
Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. On l'a vu plusieurs fois rattrapé par ses émotions, puisqu'il démarre la journée à moins 12. Il est quand même en avance de 3 ou 4 coups sur Deschambault, 3 coups. Et puis, il commence très très mal ce dimanche avec un double bogey et un bogey. Donc il se retrouve voilà. Même deuxième à un moment. Il repère encore sa première place aux alentours du 11 ou du 12e trou, mais il revient à chaque fois. Et même quand le 18, où finalement il rate un putt alors qu'il peut gagner sans aller en play-off, sur sa partie avec Deschambault. Il peut terminer en 3 au lieu de faire le par. Il rate le putt qui est pour lui un putt quand même facile. Hein. Et il y retourne et il refait le 18, mais cette fois-ci en 3 avec encore une approche exceptionnelle.
Voilà. Et donc, je vais vous contredire un peu, Olivier. Il n'y a pas de putt facile à Augusta. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, vous prenez une balle de golf, vous la mettez dans votre cuisine et vous faites un putt sur votre cuisine. Vous allez voir que la balle roule à une vitesse incroyable. Donc Augusta, c'est la vitesse de la cuisine plus les pentes. Et donc même à un mètre du trou, c'est pas cadeau. Plus les petits coups de main avec les émotions, la petite chimie qu'on peut avoir à ce moment-là. En fait, c'est pour ça qu'on voit autant de rebondissements tous les ans avec les meilleurs joueurs du monde. Et McIlroy aurait pu passer à la trappe malgré tout son talent, malgré l'année qui domine de la tête et des épaules. Il a gagné à Pebble Beach il y a 2 mois. Il y a 3 semaines, il gagne le Players. C'est le joueur qu'on attend. Il fait le tournoi parfait. Il est leader au premier tour. Il a un petit événement à la fin du premier tour. Il va faire deux double bogeys sur les 4 derniers trous. Il est 15e. Enfin bref, il y a eu des up and down pendant tout le tournoi. Et à l'arrivée, il réussit à passer. C'est la juste résultante du sport, mais c'est tellement difficile de gagner Augusta, on va dire, pour quiconque.
On l'a vu, hein, il était vraiment très très ému, très touché au moment de rentrer ce putt gagnant sur le play-off, au moment de recevoir la fameuse veste verte. On l'a vu, on a compris ce que ça représentait pour lui. C'était vraiment le Graal qu'il attendait depuis tellement longtemps.
Voilà, alors il attendait Augusta depuis longtemps et il attendait aussi le fait d'être un des rares joueurs de l'histoire à avoir gagné tous les tournois du Grand Chelem.
Voilà, donc le Grand Chelem en carrière, il est le 6e joueur de l'histoire à le faire. Voilà. Le dernier, c'était Tiger Woods il y a 25 ans.
Et comme McIlroy est un joueur qui a réussi très jeune, ça fait des années qu'on lui répète qu'il va tout casser. Et plus le temps passe, plus vous voyez que c'est très difficile de tout casser.
Il est quand même encore très jeune, hein. Il va avoir 36 ans cette année.
Voilà. Donc imaginez, quand il est arrivé, il avait 17 ans, il s'est retrouvé en tête du Masters, il a fait 80 au dernier tour, il a mis 14 ans pour s'en remettre. Voilà, c'est le golf.
On n'a pas parlé de Justin Rose, mais il faut qu'on en parle, parce qu'il a fait lui aussi 3 jours, j'ai envie de dire, exceptionnels. Il a fait jeudi, vendredi, où il est en tête avec moins 8, il rate son samedi, et puis il remet la machine en route le dimanche et il passe pas loin finalement, très près.
Justin fait 10 birdies au dernier tour, 4 bogeys, parce qu'on sent qu'il est en surattaque, donc il est obligé de faire des fautes sur ce parcours. Et c'est vrai qu'il n'est pas passé loin. S'il avait gagné, on aurait dit McIlroy a craqué et tout ça. Enfin, pour moi, aujourd'hui, Justin Rose, c'est un vieux briscard très intelligent, très accrocheur. C'est le véritable anglais. C'est les Anglais qui sont les meilleurs dans ce sport. Comme Nick Faldo à l'époque, qui avait réussi à remonter sur 8 coups de retard sur Greg Norman en 1995. Enfin, des événements comme on a vu aujourd'hui, on en a vu pratiquement à toutes les éditions du Masters. Personne n'a gagné avec un tapis déroulé. Il a fallu à chaque fois aller chercher des coups d'anthologie et des putts d'anthologie sous pression.
Il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé pendant ces 4 jours, finalement, c'est Scheffler, le numéro 1 mondial. On a envie de dire qu'il fait un mauvais tournoi, mais il fait 4e quand même.
Voilà, c'est-à-dire qu'on voit un Scheffler qui joue bien. Il rate très peu de coups. Par contre, les putts qui rentraient l'année dernière, cette année, ne rentrent pas. Et c'est ce qui fait la différence au moment T. Il s'est retrouvé plusieurs fois aussi dans d'autres compétitions en position de gagner ou pour la gagne. Et pour l'instant, ça ne se passe pas. Alors, quand on finit 4e du Masters et qu'on fait une semaine globalement moyenne pour des joueurs de ce calibre-là, c'est de bon augure. Je pense que d'ici 2 mois, l'US Open, le British Open, ces joueurs-là seront prêts.
Bon, on a Deschambault qui a partagé un dernier mot aussi sur Deschambault, qui a partagé sa partie à ce dernier tour avec McIlroy, qui s'est complètement effondré alors qu'il avait terminé sa journée du samedi par un putt extraordinaire sur le 18.
Ouais. Alors Deschambault, c'était un petit peu la revanche du dernier tour de l'US Open de l'année dernière, où c'était une bagarre McIlroy-Deschambault, et c'est McIlroy qui avait craqué. Et là, on peut dire officiellement que c'est Deschambault qui a craqué, mais il a craqué parce que l'autre lui a mis une pression phénoménale. Et surtout, il voyait qu'il n'arrivait pas à placer son jeu et que les putts ne rentraient pas et que ça revenait fort aussi de l'arrière. Il y avait Rose, enfin...
Il y avait Holberg.
Il y avait Reed à un moment, enfin... Voilà, enfin, c'est ça, un championnat de golf, ça, il faut garder ça en avance, mais ça revient aussi fort de l'arrière. Et c'est des joueurs, de toute façon, qui n'ont rien à perdre et qui ne jouent que pour gagner des événements comme ça.
Voilà, eh bien, on va suivre donc avec beaucoup d'intérêt la suite de cette saison de golf. McIlroy va peut-être être totalement libéré maintenant qu'il a ce grand chelem en carrière et qu'il a enfin ce Masters qu'il attendait depuis tellement longtemps. Ça va peut-être lui ouvrir de nouvelles perspectives.
Voilà, bah, il est tranquillement assis en haut de la FedEx Cup. Il est numéro 1 au circuit américain.
Numéro 2 mondial.
Numéro 2 mondial, il se rapproche. Je pense qu'il va jouer maintenant sans pression, mais c'est quelqu'un qui est très sollicité, qui est très populaire. Donc c'est une vie avec des gardes du corps et tout ça. Enfin, c'est quelqu'un de très important. C'est un mini Zidane, quoi, ou un Mbappé, je veux dire, à d'autres niveaux. Mais c'est quelqu'un qui est très important dans le sport. De golf.
Bon, eh bien, on va lui souhaiter en tout cas le meilleur, comme à tous les autres golfeurs, et on va suivre avec beaucoup d'intérêt jusqu'au prochain majeur, qui est le British.
Il me semble qu'en juin, il y a l'US Open.
L'US Open d'abord.
Je vérifie. J'avoue que je suis semaine par semaine en ce moment, comme tout le monde. Mais la saison est encore très très longue sur les différents circuits.
Bon, voilà. Eh bien, on va sans transition passer à la Formule 1 avec vous, Grégory Sirgue. Piastri qui, petit à petit, fait son nid, j'ai envie de dire. Il est en train de construire gentiment son année sportive et deuxième victoire pour lui cette année.
C'est ça, deuxième victoire. Un week-end où il a cumulé à la fois la pole, la victoire au Grand Prix et le meilleur tour en course. Donc un week-end parfait, j'ai envie de dire, pour lui. Également, le fait que son coéquipier rival Norris finisse troisième sur ce Grand Prix, ça lui permet de remonter sur lui. Il n'est plus qu'à 3 points au championnat maintenant. Donc plutôt un très très bon week-end pour lui et également une bonne nouvelle pour son team manager qui a deux pilotes très performants à sa disposition. Donc il ne faut pas oublier que même si c'est un sport individuel, c'est aussi un sport d'équipe. Donc ça permet à McLaren de planer également en tête du championnat constructeur.
Et toujours pas de consigne chez McLaren concernant les pilotes.
Toujours aucune consigne, ils peuvent batailler. Je pense que tant qu'ils crachent pas les voitures, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent.
C'était la consigne effectivement au début du championnat.
C'est ça, et ça a plus ou moins réussi selon les années à d'autres écuries. On se souvient des crashs entre Ricciardo, Verstappen, entre à l'époque Rosberg et Hamilton. Donc espérons que ça se reproduise pas cette année, quoi.
La bonne surprise de ce Grand Prix pour nous Français, c'est Alpine qui marque ses premiers points avec Pierre Gasly, 7e.
Oui, il a fait une bonne course. Il a quand même fait quasiment toute la course intercalée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, excusez du peu. Et c'est dommage, c'est que dans les dernières centaines de mètres de la course, et ben, il se fait rattraper par Verstappen et doublé sur la ligne. Donc un peu moins de points au championnat, mais une bonne nouvelle, c'est qu'il a scoré et surtout il a eu une performance régulière sur tout le week-end et sur un circuit qui, contrairement au week-end dernier à Suzuka, a beaucoup de dégradation. Donc ça veut dire que la voiture est performante même en conditions intenses, puisque là en plus c'est un endroit, bah, le Grand Prix se passe de nuit, il fait très chaud et tout, donc plutôt de bon augure pour la suite de la saison.
Il avait déjà fait le 5e temps des qualifs, ce qui était assez exceptionnel de revoir une Alpine à ce niveau-là.
Tout à fait. Bah, on ne les attendait pas vraiment. Et même Doohan, alors il a eu moins de succès en course, mais il a quand même fait un week-end pas trop mal aussi. Donc Alpine revient plutôt pas mal. Et le fait qu'il score des points permet également, bah, une première fois depuis assez longtemps, sur les 4 premières courses, toutes les écuries ont scoré.
Voilà, c'était la seule écurie qui n'avait pas encore scoré.
C'est ça. Donc là, toutes les écuries ont marqué des points au championnat.
La mauvaise nouvelle, si on peut le prendre comme ça pour Alpine, c'est que les As ont marqué toutes les deux, puisque Esteban Ocon termine, lui, 8e.
C'est ça, malgré le fait d'avoir complètement explosé sa voiture en deuxième séance de qualif, il arrive quand même à scorer dans les points. Donc c'est vraiment... une bonne performance là aussi. Et une grosse performance, on n'y pense jamais, mais des mécanos qui, en une nuit, ont intégralement remonté une voiture pour qu'ils puissent partir le lendemain sur le Grand Prix.
Et pourtant, il avait, quand on voit les images embarquées, pas tapé si fort, mais la voiture était vraiment bien détruite.
C'est ça, bah, c'est des tout petits éléments de carbone, en fait. Donc même si ça tape doucement, tout est instantanément, le carbone, ça éclate. Donc ça fait tout de suite des gros dégâts. Quoi.
Il y en a un dont on parle peu, mais qui est là, c'est George Russell, puisqu'il fait deuxième de ce Grand Prix et qu'il est aussi bien placé au championnat du monde.
C'est ça, il fait deuxième. On se demande presque comment il finit la course. Il est le seul avec les pneus tendres sur la fin. Il a également des problèmes sur à peu près les 20 derniers tours. À chaque tour, il a un nouveau problème sur son volant. Le volant étant... maintenant, c'est plus un ordinateur qu'un volant. Donc, il finit la course. On se demande vraiment comment, presque à la fin, il va avoir un volant à l'ancienne sans aucune assistance électronique. Donc, franchement, belle performance.
Et puis, il faut qu'on parle des Ferrari, puisque quand même... Oui, Ricardo.
Oui, concernant Russell, c'est un peu comme, je trouve, la MotoGP. Ça veut dire que deux heures, trois heures après... On nous parle de changer le podium, donc je voudrais avoir quelques explications sur ce qui s'est passé pendant le Grand Prix à Russell, où on voulait le pénaliser de 5 secondes.
Alors, il y a eu une partie pendant le Grand Prix où son DRS se serait ouvert hors des zones autorisées, mais il y avait également toute une histoire, est-ce qu'il l'a vraiment ouvert ? Est-ce que comme son volant était en train de complètement lâcher ? Parce que quand le pilote va ouvrir son DRS, ça va automatiquement envoyer une information à la direction de course. Tel pilote a ouvert son DRS à tel endroit et on le géolocalise sur le circuit. Et là, apparemment, ça aurait envoyé l'information à la direction de course, mais il n'avait pas forcément ouvert son DRS hors des zones limites. Donc c'est là-dessus qu'il y a une enquête de la direction
blanchi.
De course. Et il me semble qu'il a été blanchi, sauf erreur de ma part. Sinon, il ne reste pas deuxième de la course. Donc,
ok. Alors, messieurs, un petit mot des Ferrari. Leclerc qui fait quatrième.
Leclerc qui fait quatrième. On a eu une très très belle bataille pendant la course avec Norris, vraiment à la limite du réglementaire, puisque deux fois Norris est poussé hors des limites du circuit. Il y a également une fois où Leclerc change de trajectoire, mais en toute dernière minute, ce qui n'est pas trop fair play et surtout très dangereux. Donc il a fait une course solide malgré les difficultés qu'il avait à piloter la voiture. Il se plaignait souvent à son ingénieur. Et on a également Hamilton qui a eu quand même plus de difficultés que Leclerc à exploiter la voiture tout au long du week-end. Donc,
c'est un peu une constante depuis le début de la saison.
C'est un peu une constante. C'est assez difficile pour Ferrari pour l'instant. Ils sont d'ailleurs quatrième au championnat constructeur. Donc... c'est un peu compliqué.
On attendait bien évidemment beaucoup mieux de cette arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, mais on sait aussi que ça peut prendre du temps.
Ça peut prendre du temps à ce que la mayonnaise prenne, et il y a eu beaucoup de marketing autour. Est-ce qu'il y a eu autant de concentration sur l'aspect sportif de ce transfert ? C'est peut-être aussi à discuter, quoi.
Je rappelle quand même qu'Hamilton, il a gagné une course sprint déjà sur Ferrari, donc ça fait quand même plaisir de voir...
Sur le deuxième Grand Prix, absolument.
Tout à fait. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que l'attitude de Leclerc pendant le Grand Prix est justement cette rivalité qui est en train de naître avec Hamilton ?
Il peut forcément être rival. Il a eu l'habitude jusque-là de Sainz. Il était le premier pilote. Sainz, même s'il a fait des belles courses, il jouait quand même les seconds couteaux. Là, Hamilton, cette fois champion du monde, il n'arrive pas pour faire de la figuration. Donc peut-être que Leclerc va se sentir un peu bousculé au fur et à mesure de la saison. Et il n'était peut-être pas habitué à avoir des consignes qui le mettaient en tant que deuxième pilote. Donc peut-être ça peut aussi amener des petites frictions.
Sachant que chez Ferrari, il n'y a pas non plus pour l'instant d'ordre établi sur le fait qu'il y a un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Donc ça peut effectivement générer des pilotes qui vont un peu au-delà de la limite pour
montrer
leur terrain. Exactement.
C'est ça.
Eh bien messieurs, on va continuer à débriefer de l'actualité sportive après une page de pub.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Envie de faire des travaux, besoin de changer de voiture, vous rêvez de loisirs et de voyages ? Alors écoutez bien, jusqu'au 30 juin à la BNC, votre crédit conso, c'est zéro frais de dossier. Zéro ! Vous avez bien entendu, c'est le moment de se faire plaisir. Contactez vite votre conseiller pour découvrir toutes nos offres du moment ou rendez-vous sur bnc.nc.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social, 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849, Nouméa CEDEX, RCS, Nouméa 74B 047 688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
Urgence, pouvoir d'achat.
Maman, on peut jouer au jeu de Pâques?
Quel jeu de Pâques, chérie?
Le jeu de Pâques à Hyper Upaïta.
Jusqu'au 21 avril, venez jouer dans votre magasin Hyper Upaïta pour gagner 10 bons d'achat d'une valeur de 5000 francs et 2 gros œufs en chocolat d'une valeur de 9600 francs.
Profitez aussi des promos de folie avec des œufs en chocolat à petit prix.
En plus, Hyper Upaïta sera exceptionnellement ouvert lundi 21 avril de 8h à 13h.
U, commerçant autrement.
RRB, tout de suite on retrouve la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Messieurs, l'actualité sportive de cette semaine a été extrêmement dense et donc je vais vous demander de commenter avec moi toutes ces actualités. On va commencer par le football et la Ligue des Champions. Jean-Luc Guépy, on va commencer par vous. Le PSG qui a réalisé un gros match contre Aston Villa. Qu'est-ce que ça vous inspire? Deux buts magnifiques de Doué et Kvaratskhelia. On attend maintenant la qualification, forcément.
On attend la confirmation du PSG. On attend la confirmation pour Arsenal. Ça devrait dérouler pour Barcelone.
Oui, qui s'est imposé contre Dortmund 4-0.
Mais ce que je vois, moi, de mon œil de golfeur et de sportif passionné, c'est que on voit des gestes techniques de plus en plus fantastiques. On a vu deux coups francs qu'on n'a pas vus depuis 25 ans dans le football, avec des ballons qui vont en survitesse, des trajectoires fabuleuses. Enfin, c'est... Le match de Barcelone, il y a des monuments de technique aussi dans ce match-là. Voilà, donc j'ai hâte de voir le retour en espérant, si on embraye sur le mauvais langage, qu'il n'y ait pas des décisions d'arbitrage en faveur du Real de Madrid pour défavoriser Arsenal. Enfin bref, on a déjà vu. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde du sport. Voilà, donc j'espère qu'on va rester dans le vrai sport et que tout sera sain jusqu'au bout.
Grégory Siag, sur ces quatre matchs de Ligue des Champions, dont celui du PSG par exemple.
Paris a enfin brisé la malédiction avec ses ex. On se souvient qu'ils avaient perdu la finale de Ligue des Champions sur un but de Kingsley Coman quand même, qui est un titi parisien. Donc là, ils ont
en 2020 effectivement.
Ils ont enfin réussi à vaincre le signe indien. Maintenant. Attention au match retour, de pas croire que tout est fait, parce que le match retour, il est en Angleterre, et c'est des ambiances qui sont très très chaudes à gérer pour les joueurs, donc à voir ce qui se passe. Et pour le Real, je rejoins l'avis de Jean-Louis, méfiance, s'il y a bien un club qui peut le faire à chaque fois, et on le voit chaque année d'ailleurs, c'est le Real, donc va falloir qu'Arsenal joue avec les mêmes ambitions qu'au match aller.
Ricardo Baroni, il y a l'Inter qui a réussi, on n'en a pas beaucoup parlé finalement, mais une très grosse performance en allant s'imposer 2-1 à Munich, au Bayern, après une égalisation de l'inénarrable Thomas Müller. Donc l'Inter est quand même bien placé maintenant pour se qualifier pour les demi-finales.
L'Inter a marqué deux très beaux buts. Moi, je suis inquiet parce qu'au match retour, les Allemands, ça reste les Allemands. Et donc, je ne suis pas encore convaincu qu'ils soient qualifiés. Ce n'est pas comme une équipe comme Barcelone qui va gagner 4-0. Concernant le Real de Madrid, sincèrement, ça me ferait plaisir qu'ils passent. Pour la simple raison que dans cette équipe, il y a Mbappé qui y allait exprès pour pouvoir performer et pouvoir aller gagner cette Champions League. Ça serait vraiment dommage que le Real soit éliminé et que ce soit le PSG qui passe et qui avance vers la finale. Puisque tout à l'heure, il y a quelques minutes, match retour en Angleterre, c'est très chaud, mais le Paris Saint-Germain a montré le match contre Liverpool, qui reste quand même pour moi le plus beau match de Champions League, comme quoi ça ne leur faisait pas peur d'aller jouer en Angleterre.
Et c'est peut-être la destinée du PSG cette année que de passer par l'Angleterre, puisque si on se projette un tout petit peu et que le PSG passe et qu'Arsenal passe, c'est le PSG-Arsenal qu'on aura en demi-finale.
Troisième club anglais
consécutif au cas où pour le PSG.
Oui, mais bon, les Anglais ne leur font pas peur. Ils ont montré, ils perdaient 1-0, ils ont remonté à 3-1. Je pense qu'ils ont montré qu'il y avait vraiment un esprit d'équipe et que rien n'était insurmontable.
Bon, il faudra en revanche attacher les lacets de Declan Rice les uns avec les autres pour l'empêcher de mettre des coups francs comme il a mis cette semaine avec Arsenal, ce qu'il a quand même nettoyé la lucarne deux fois. Hein.
Oui, c'était quand même exceptionnel. C'était exceptionnel. Est-ce qu'il sera capable de rééditer ça au match retour? C'est moins sûr.
Ben, on le verra, mais la confiance est en tout cas de son côté. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Mercredi matin et jeudi matin pour nous, pardon, ici en Calédonie. On va dire un petit mot de football toujours, mais en Ligue 1 cette fois-ci. C'est l'OM qui a perdu gros ce week-end en s'inclinant 3-0 à Monaco. Lourde défaite des Marseillais qui perdent de nouveau la deuxième place au championnat, messieurs.
Au profit de Monaco, justement.
Au profit de Monaco, exactement. Et Lyon, qui s'est imposé ce matin, remonte à la quatrième place. Donc on se retrouve avec Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg qui se tiennent en 3 points. On pourrait même rajouter Nice mais qui est un petit peu décroché maintenant pour 3 places entre la 2e et la 4e qualificative pour la Ligue des Champions.
C'est surtout ça l'enjeu, à la fois un enjeu sportif et financier majeur, surtout avec la crise des droits télé qu'il y a en Ligue 1. Les clubs vont laisser leur vie sur le terrain pour accrocher ces places-là justement. Donc ça promet un très beau sprint final.
On suivra avec beaucoup d'intérêt donc la suite. Il reste 5 journées de championnat, mais effectivement Marseille est dans une dynamique très négative quand même. 4 défaites sur les 5 dernières journées, et des défaites à chaque fois en prenant beaucoup de buts.
C'est ça, c'est pas la première saison où ça arrive, et on retombe dans le cycle où dans le sprint final Marseille s'écroule, et après on se dit qu'il va falloir changer 15 joueurs pour que ça aille mieux, et au final, il faut reconstruire, etc. Donc, ça se complique, quoi.
On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt également. On va parler de MotoGP, messieurs. C'était un week-end dense, je l'ai dit. Victoire de Marc Marquez, encore, qui lâche pas le leadership sur le Grand Prix du Qatar. Devant Vinales, Bagnaia et Morbidelli. Zarco, 5e. Finalement, même 4e, puisque Vinales a été déclassé. Bon week-end, encore, pour Marc Marquez, qui caracole en tête avec son frère Alex, 2e au championnat du monde.
Ah ben il est intouchable, quoi, clairement, même quand il, parce qu'il n'a pas mené tout le Grand Prix, et même quand il ne mène pas, il arrive quand même à finir premier. C'est assez impressionnant comme performance.
Bon, finalement, même s'il avait terminé 2e, Vinales étant déclassé, il aurait été donné vainqueur, mais il est allé la chercher en profitant de la petite erreur de pilotage de Vinales. Le point noir, je dirais, de ce Grand Prix, c'est la chute de Jorge Martin, qui revenait après plusieurs mois d'absence depuis son titre de champion du monde. Il n'était pas à 100%. On avait déjà eu ce débat ici de combien de temps ça lui prendrait avec Clément Muller pour revenir. Et il est peut-être revenu trop tôt, visiblement.
Il retourne aux soins, du coup.
Et grosse blessure, a priori 6 côtes cassées, un pneumothorax, donc il ne devrait pas être sur la moto tout de suite encore. Donc il va peut-être cette fois-ci prendre le temps de revenir. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement, mais effectivement, on n'a pas aimé cette image de Jorge Martin, pardon, qui met beaucoup de temps à se relever, et on a été assez inquiets. Messieurs du tennis maintenant, Jean-Luc Guépy avec vous. Alcaraz qui lance bien sa saison sur terre battue, en s'imposant face à Musetti en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Après avoir cédé le premier set 6-3, il s'est imposé 6-1, 6-0 sur les deux derniers sets. Bon, sur un Musetti qui était diminué sur la fin, mais il est quand même allé chercher son titre.
Ouais, on sent qu'il a beaucoup de marge, que c'est un des grands joueurs maintenant qui a plus Nadal, un grand joueur de terre. Et donc, je pense qu'il se prépare tranquillement pour Roland Garros.
Où il a un titre à défendre.
Voilà. Et qu'il est parti, sauf accident, il est parti pour un moment à installer son nom sur Roland. Parce qu'en général, les gens qui gèrent bien la pré-saison de terre et qui gagne Monte Carlo se retrouve toujours dans le dernier carré sur Roland Garros, voire sur la finale, quoi.
Alors on va voir, puisque d'ici quelques semaines il y a un certain Jannik Sinner qui va revenir aux affaires après sa suspension, et donc on va voir, il sera relativement frais par rapport à ses petits camarades, donc on va voir comment ça va la confrontation ou les confrontations vont tourner, mais on sait que c'est pas encore sa surface de prédilection, la terre battue à l'italien.
Ouais, donc y a un petit point d'interrogation. Comment va-t-il revenir physiquement? Comment va-t-il revenir mentalement avec une petite casserole derrière? Parce que la sanction, elle vient pas du Saint-Esprit, hein. Elle vient parce qu'il y a eu un souci. Enfin, il y a eu un compromis de sanction. Et donc, ça va être intéressant de suivre comment le champion, avec autant de pression, va réussir à organiser sa nouvelle saison. Et on a hâte de voir ça, mais Alcaraz me semble fort pour la terre battue. Après, à partir de Wimbledon, je pense que les cartes seront rebattues.
Bon, eh bien, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'intérêt. Cette semaine, le tournoi de Barcelone, où Alcaraz est aussi aligné. Un petit mot de rugby. Toulouse, qui s'est qualifié, mais pas comme d'habitude, de très justesse, Grégory Sirg.
Ah bah c'était sur le fil et même après le gong dans le stade, puisque Ramos passe une pénalité au-delà de la 80e minute.
Voilà, donc pénalité qui permet à Toulouse de s'imposer 21-18 à Mayol.
Dans une ambiance des grands jours, puisque Mayol, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu des grands matchs comme ça. C'était souvent délocalisé au Vélodrome, donc ça faisait plaisir.
Et Toulon a montré que du coup, il serait probablement le principal rival de Toulouse cette année en top 14 aussi.
Oui, 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 c'était vraiment un très gros match et Toulouse a beaucoup plus douté que d'habitude, notamment la semaine dernière contre Sale où ça a été beaucoup plus facile que là.
Et puisque les Toulousains sont habitués aux confrontations franco-françaises, eh bien ça ne changera pas puisqu'ils affronteront l'UBB en demi-finale qui s'est brillamment qualifié de son côté avec Penaud qui a battu le record d'essais sur une saison en Champions Cup.
C'est ça, ils produisent un très très beau jeu Bordeaux, donc à surveiller aussi.
Messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission. Je vais me tourner vers vous pour vous demander vos coups de cœur. Ricardo Baroni, on va commencer par vous.
Ben, mon coup de cœur, c'est pour Vinales, qui a été pénalisé de quelques places au classement du MotoGP pour un problème de pression dans les pneus. Je regrette qu'il soit monté sur le podium et qu'il soit évincé, surtout pour son équipe, qui est une équipe française, Tech 3, qui roule sur la marque KTM.
OK. Jean-Luc Guépy, votre coup de cœur de cette semaine ?
Premier coup de cœur footballistique, les deux coups francs de Rice. Comme je le dis et que j'ai redit en privé, en public, enfin, il y a longtemps qu'on n'a pas vu des images de football comme ça. Fantastique. Et mon deuxième coup de cœur, plutôt rigolo, sentiment. Je veux remercier ma femme de m'avoir laissé monopoliser la télévision pendant 4 jours.
Ça compte. Grégory Siak, votre coup de cœur
Et pareil, un double coup de cœur. Un coup de cœur pour Julien Langlais, qui a fini, un pilote vanoté, qui a fini 9e à l'Otago Rallye de Nouvelle-Zélande. Et également pour les Calédoniens Eugène Crenier et Philippe Delrieux, qui eux finissent 13e à ce même rallye. Et donc une très très grosse performance, parce qu'il y a quand même 100 pilotes au départ à peu près. Enfin, sans équipage, pardon. Et on les retrouvera d'ailleurs le 3 mai à Tomo pour la première manche du rallye
de Nouvelle-Calédonie. Eh bien, merci à tous les trois, messieurs, d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.